Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Dans cet épisode, on va parler prospective, ma passion. Essayer de décrypter l'actuel pour anticiper l'avenir. Il est déjà venu dans mon podcast, mais son plus récent ouvrage, À la recherche du lien social perdu, Vivre et travailler ensemble au XXIe siècle, publié chez l'Harmattan, m'a donné envie de le réinviter. Il s'appelle Dominique Turc, il a vécu et travaillé pendant plusieurs années dans de nombreux pays. Il préside l'Institut Boussoun, un centre de recherche en stratégie et management. Docteur en sciences sociales et en management, il enseigne régulièrement à HEC, à l'ESCP, à l'INSEAD et à l'EDEC en France. Et il a également été directeur de marketing de Sony en France et enfin partner chez McKinsey, cabinet de conseil en stratégie notoirement connu. Avec lui cette fois, on aborde les questions suivantes. Pourquoi le lien social s'est-il perdu? De nouvelles proximités et liens sociaux sont-ils en train d'émerger? Y a-t-il des théories économiques qui permettent de croire à cet optimisme? Qui va payer le coût de ces nouvelles proximités humaines? Quelles implications en management et quel rôle joue l'entreprise dans tout ça? C'est un épisode passionnant et j'espère que vous allez l'apprécier et mettre en pratique ces conseils plus qu'éclairés. Allez, j'arrête de parler et je laisse place à ma conversation avec Dominique Turc. Dominique Turc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie. Ça fait la deuxième fois, à vrai dire, que vous venez. Donc, je suis encore plus ravie. Vous avez récemment publié un ouvrage que j'ai sous les yeux qui s'appelle « À la recherche du lien social perdu, vivre et travailler ensemble au XXIe siècle ». C'est pourquoi je me suis dit que ça serait bien que vous reveniez dans mon podcast pour en parler. Effectivement, on avait déjà abordé un peu le sujet la dernière fois qu'on s'était vu, mais plutôt dans les grandes lignes. Donc je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de se parler à nouveau de ce fameux lien social qui me tient à cœur et qui vous tient à cœur également. Mais voilà, sans plus tarder, est-ce que je peux vous demander, même si certains ont déjà écouté votre épisode précédent, qui a eu d'ailleurs un franc succès, est-ce que je peux vous demander de vous présenter en quelques mots?
Oui, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, Estelle. Ça me fait extrêmement plaisir d'être là et d'être là de nouveau. Effectivement, c'est un sujet qui, moi, me passionne depuis toujours. Alors, justement, en me présentant, moi, j'ai fait une école de commerce autrefois. Et puis, j'étais très intéressé justement par la partie humaine et gestion et management. Le management, c'est d'abord le management des hommes. Hein. Bon. Mmh. Et donc, j'ai fait aussi un doctorat en sociologie des organisations pour comprendre comment fonctionnaient les organisations, comment fonctionnaient les hommes à l'intérieur d'une organisation. Et puis, j'ai ensuite eu une carrière un peu hybride entre le monde académique, le monde administratif, le monde du conseil, le monde de l'entreprise, et des responsabilités plus ou moins élevées selon les étapes de la carrière, jusqu'à il y a une quinzaine d'années où j'ai décidé de me consacrer beaucoup plus à la partie recherche, compréhension de ce qui se passe dans la société, conseil évidemment, il faut bien vivre, et vraiment réflexion sur où on va, donc des dimensions de prospective. Mm-hmm. J'adore l'analyse, mais ce que j'ai vraiment développé depuis 10 à 15 ans, c'est où est-ce qu'on va avec ce qui est en train de se passer. Mm-hmm. Quels sont les éléments de prospective qu'on peut regarder, d'où mes différents ouvrages. Le précédent s'appelait le post-digital, mm-hmm. le travailleur post-digital. Mm-hmm. Bon, on sait qu'est-ce qui allait arriver après le digital. Et là, c'est vraiment un ouvrage autour de qu'est-ce qui va arriver à nos liens sociaux, à notre façon d'être proche. Pour dire très très simplement, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir une sorte de rébus chinois qui consisterait à dire dis-moi de qui tu es proche et de quoi tu es proche, je te dirai qui tu es. Mmh. Et c'est en fait d'une précision extraordinaire. Quand on réfléchit soi-même de qui on est proche, de quoi on est proche, on s'aperçoit qu'on se définit énormément. Mmh. Et je suis pas du tout sur un angle politique ici, hein. C'est pas de qui, autant politique, je suis proche. C'est plutôt, quelles sont mes proximités, par exemple, où est-ce que je vais faire mes courses, qu'est-ce que j'achète, est-ce que j'achète beaucoup de plastique ou pas de plastique, où est-ce que je passe mes vacances, de qui je me sens proche émotionnellement, est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est des gens qui pensent un peu comme moi, dans quel groupe de travail est-ce que je suis, dans quel groupe de pensée, d'amis même, est-ce que je suis. Et en fait, on s'aperçoit que on définit nous-mêmes nos proximités, mais en même temps, elles nous définissent. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'aller-retour entre les choix que nous faisons pour nos proximités, et donc nos liens sociaux, évidemment, hein, et ce que nous sommes.
Les proximités subies et les proximités choisies.
Oui, alors il y en a quelques-unes qui sont subies, effectivement. Celles-là, on les appréciait pas toujours beaucoup, d'ailleurs. Hein, et encore, faut s'y faire, ça fait partie de la vie. Hein, bon. Et les proximités choisies, effectivement, c'est celles qui vont nous faire plaisir, qui vont nous rendre plus proches de la nature, plus proches des autres, etc. Mm-hmm. Ce qui est intéressant, en fait, la raison pour laquelle moi je suis arrivé aussi à ça, à travers le monde du travail, c'est que l'un des endroits où se manifeste le plus le lien social, c'est dans l'entreprise. Mmh. Alors, et quand je dis ça, je dis pas que le lien social de travail dans l'entreprise. On pourrait y revenir, surtout avec toute la crise du Covid et le télétravail, etc. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que dans l'entreprise, on croise des gens et des idées qui sont vraiment issus de plein de milieux différents, y compris des milieux avec lesquels normalement on n'est pas tellement en relation. Et donc l'entreprise, c'est une opportunité, on peut l'avoir comme une contrainte, hein, mais c'est aussi une opportunité de bâtir des ponts.
Bien sûr.
Avec d'autres personnes. Et en fait, pour moi, la grande question aujourd'hui, c'est sommes-nous encore capables de construire les bons ponts? Est-ce qu'on est capable, chacun d'entre nous, hein, c'est vraiment une dimension très personnelle, c'est pas une dimension, ça devient une dimension collective, mais c'est d'abord une dimension personnelle, sommes-nous capables de construire les bons ponts avec les bonnes personnes?
On va y revenir tout à l'heure. Ah, d'accord. Ouais. Ouais. Excusez-moi, non mais autant garder un petit peu de suspense, mais la grande question, enfin la première grande question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai lu votre livre, c'était de savoir pourquoi ce fameux lien social s'est-il perdu, au fond? Alors, il y a plein de réponses à mon avis, mais si on pouvait résumer un petit peu les choses.
Il y a beaucoup de réponses, donc on va pas les prendre toutes, mais il y en a deux, trois qui me semblent particulièrement importantes. Hein. Il y en a une qui est très très importante, c'est l'explosion du digital. Mmh. C'est-à-dire le fait qu'on a découvert cette technologie entre les années 70 et aujourd'hui, ça s'est surtout développé avec ce qu'on appelle le web 2.0, c'est-à-dire qui permettait vraiment d'avoir des échanges à travers le web, où on a pu automatiser un très grand nombre d'interactions, de liens sociaux, de relations, et en les automatisant, on les a anonymisés. Et on a supprimé l'intermédiaire, l'interlocuteur, puisque maintenant, on peut réserver ses billets de train et faire des billets de théâtre et tout ce qu'on voudra. On fait un nombre de choses incroyables grâce à Internet et la digitalisation. Tant mieux, hein. On a gagné en coût de transaction, en temps de transaction, des temps considérables. Donc, en soi, c'est bon. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a des gens qu'on ne voit plus. Et d'ailleurs, l'OCDE a mis comme principale maladie
la solitude.
La solitude. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant de se dire que le digital a eu un rôle important. Alors c'est pas le seul. Et j'ai pas envie de casser du sucre sur le dos du digital qui nous rend énormes services tous les jours. Soyons objectifs. Hein, c'est pas. Il y a pas que du négatif. Hein, il y en a un petit peu. Bon, mais il y a pas que ça. Alors il y a quand même, restons une toute petite seconde là-dessus. Il y a du négatif quand l'individu souhaiterait avoir une relation autre que celle que du
bien
digital.
Sûr. C'est de la frustration.
Là, il y a un vrai problème, il y a un problème de frustration. Et aujourd'hui, les sites internet vous proposent un chatbot qui souvent n'est qu'une intelligence artificielle. Donc, c'est pas une personne. Et il y a même ambiguïté aujourd'hui, on ne sait pas très bien si on parle avec une personne ou avec une machine. Hein. D'ailleurs, on a même transformé la quelquefois la personne en machine en lui demandant de répondre comme une machine. Donc on est
C'est ça.
Bon, là il y a un vrai problème. Si j'ai besoin d'un contact humain, j'ai envie d'avoir ce contact humain.
Bien sûr.
Et je voudrais qu'on puisse me l'offrir. Mmh. Ce qui va poser évidemment, on en parlera probablement tout à l'heure, des questions financières parce que l'homme ça coûte. Bon. Mais donc le digital a eu d'énormes bénéfices même s'il y a eu des côtés négatifs. Et notamment ce côté négatif de solitude. Il y a quand même pas que ça. Parmi les autres choses, il faut voir que la société de consommation, ça est assez ancienne, elle date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en gros, hein, nous a amené à rechercher des économies un peu à tout prix, notamment au prix humain, pour acheter ou avoir des choses. On a préféré avoir que être avec les autres, pour faire un peu une caricature. Et on voit bien qu'il y a... alors il y a par exemple des trucs assez simples. Je vais chez Ikea acheter mes meubles, c'est moi qui les assemble, etc. J'ai des contacts avec pratiquement personne et effectivement, je fais des économies. J'ai un prix plus bas parce que je fais le boulot à la place de quelqu'un d'autre qui aurait pu l'installer chez moi. Bon. Et on a ça à une très, 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 très grande échelle. On a besoin de moins de contacts humains parce qu'on prend moins de personnes à domicile, comme c'était le cas avant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Hein. Et aujourd'hui, on est heureusement en train d'essayer de réinventer le travail à domicile, l'assistance à domicile, etc., par des aides fiscales principalement d'ailleurs. Mais ça suffisait pas. On a aussi cherché le prix le plus bas en allant dans les magasins, dans les hyper, etc., complètement déshumanisés, pour payer un tout petit peu moins cher. Vous voyez, tous ces exemples, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de revenir dessus. Mmh. L'hyper, il est en perte de vitesse aujourd'hui. On a envie de revenir vers son commerce de proximité. Et pas simplement parce qu'on veut pas prendre sa voiture. Il y a vraiment autre chose, hein. Et les marchés, dans toutes les villes de France, on rouvre les marchés aujourd'hui. Donc, au lieu d'aller à l'hyper qui était à 10 km en dehors de la ville, on va au marché qui est en centre.
Je sais qu'ils avaient leur importance pendant le Covid. Donc, les gens avaient un besoin d'avoir le marché ouvert.
Absolument. Mmh. Et il y a plein qui rouvrent, hein. Plein de villes de France sont en train de rouvrir des marchés. C'est génial. Parce que quand on va au marché, on a une vraie vie sociale. Mmh. On discute, on s'engueule avec les vendeurs quand c'est trop cher. Qu'importe. On a une vraie vie sociale. En même temps, on a l'impression de faire quelque chose d'écologique. Parce que parmi les proximités sur lesquelles je travaille, il y a celle avec la nature, avec la pureté écologique entre guillemets. Donc je veux moins de plastique. Quand je vais au marché, on emballe mon jambon dans du papier ou mes légumes ou mes fruits dans un sac en papier. Parce que même souvent, je peux les prendre directement dans mon sac. Donc on a dans le marché en fait une espèce de symbole de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mmh. Vie sociale, rencontre avec les autres. Conversation anodine, conversation fatigue. La conversation fatigue, c'est celle qui sert à rien. Hein. Mais qui sont le sel de notre vie? En fait, on peut.
Mais qui sert à quelque chose finalement?
Ben qui sert? Imaginons.
Qui nous rend un peu heureux au moment où on les a.
Oui, et puis un vrai échange social. Imaginons que bon, aujourd'hui on n'arrête pas de se demander comment ça va, il fait froid, il fait beau, mais c'est techniquement inutile. On s'en fiche, alors que souvent on demande aux gens comment ça va, alors qu'on s'en fiche complètement comment ils vont. Mais c'est pas vrai. Ces échanges fatigues avec eux sont des échanges qui nous montrent qu'on est vivant, qu'on est en train d'interagir. Je ne me vois pas demander à un chatbot sur un site internet comment ça va aujourd'hui.
Ah si, moi je le fais souvent, juste pour rigoler et pour essayer de voir si
je vais
répondre.
Je vais tester.
Comme avec Siri.
Merci Estelle, je vais tester. À chaque fois maintenant que je vais être avec un chatbot, je vais demander comment ça va aujourd'hui, voir comment il répond.
Mais un jour avec le Siri... je lui demande quel est le sens de la vie et il me répond selon toute vraisemblance, il semble que c'est le chocolat.
Très bonne réponse. Très très bonne réponse.
Oui, donc le marché qui est comme une sorte de lunette en fait, enfin de symbole de nos besoins et de nos manques en fait.
Oui, de nos besoins, de nos manques sociaux, et même, c'est ça qui est intéressant avec le marché, c'est aussi un symbole de notre besoin de proximité avec la nature, avec les paysans du coin, avec les commerçants du coin, etc. Donc, on va plus loin que simplement le contact social, là.
J'ai une question sous la même question sur la disparition du lien social. Est-ce qu'on n'est pas aussi... Alors, il y a le digital, il y a le monde dans lequel on vit, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi eu un oubli de notre part, nous, humains, et une sorte de... je dirais pas un oubli, mais on n'a peut-être pas assez valorisé le lien social et on s'est peut-être un petit peu laissé aller aussi. C'est-à-dire que d'une certaine manière, à un moment, on n'a pas sacralisé le lien social suffisamment, peut-être.
Probablement. Probablement qu'on a laissé un petit peu tomber individuellement. Je dirais même que c'est certainement le cas. Par contre, c'est plus compliqué de connaître les vraies causes. Peut-être parce qu'on était pas mal surchargé de travail. Donc en fait, on se préoccupait de son travail et un petit peu de sa famille, puis on n'avait plus tellement le temps de faire du lien social. Ça peut être une des raisons. Peut-être aussi parce que en ville, quelquefois, on est content de pas avoir de liens sociaux. C'est-à-dire que il faut pas non plus rejeter le côté pervers le côté négatif de certains liens sociaux. Il y a des gens que j'ai pas envie de voir. Et j'ai le droit de pas avoir envie de les voir. Et donc, pour les éviter, j'évite peut-être aussi en même temps d'autres liens sociaux. Il y a peut-être ça aussi.
Non, mais je m'interroge parce que c'est vrai que je prends juste là la période qu'on est en train de traverser. Je regarde même mon comportement à moi. Le fait d'avoir vécu en confinement pendant X temps. Alors là, je contextualise un peu trop peut-être, mais après quasiment un an et demi où on s'est coupé quasiment du monde tous. Ou en tout cas peut-être pas un an et demi, mais de manière drastique pendant quelques semaines. Je pense qu'à un moment il faut se faire violence. C'est-à-dire que moi je me suis vue souvent me dire allez fais-toi violence, va à tel truc, allez vas-y tu seras une heureuse une fois que tu seras allée. Je l'ai toujours fait ça parce que je suis quelqu'un de très solitaire naturellement. Mais j'avoue que je une fois que j'y suis, c'est vrai que je profite, je suis contente d'y être. Mais il y a ce truc humain, malgré tout, qui consiste à dire, peut-être que c'est des tempéraments, hein. Il y a des gens qui aiment être entourés de plein de monde tout le temps, en permanence, et de voir du monde, etc. Mais ce truc de se dire, allez, on y va. Est-ce que ça va pas aussi avec notre air de, je vais vivre pour moi, je veux plus qu'on m'embête, je veux plus de contraintes, je veux plus de, voilà, c'est-à-dire, j'essaye de savoir s'il y a pas une forme de responsabilité dans le nouvel humain. Cet être humain qui est arrivé au XXIe siècle et qui s'est dit « je veux plus de contraintes ». Et donc, de fait, il s'est aussi un petit peu pris le revers de la médaille en se retrouvant un peu esselé, quoi. Enfin, je sais pas, hein, je ne fais pas de mon cas une généralité, hein, certainement pas, mais j'essaie juste de savoir si l'humain a pas sa responsabilité aussi dans cette perte de lien. Voilà. Enfin, oui et non, quoi. En gros, la réponse est oui et non.
Je crois qu'on est, tous différents d'abord, hein. Ouais. Donc, effectivement, on n'a pas tous les mêmes besoins de liens sociaux, les mêmes envies. Et puis, non seulement on est différents les uns des autres, mais on est aussi différents d'un moment à l'autre.
Bien sûr.
On a envie qu'on nous fiche la paix.
Puis il y a des moments où on a très envie de sortir et de faire des trucs. Ouais.
Et je crois que le Covid a révélé un petit peu des choses ici. Notamment, en ce moment, il y a pas mal de gens qui ont vraiment envie de sortir. D'aller voir du monde, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre. Il y en a qui ont peur, qui veulent pas y aller, parce que virus et tout ce qu'on voudra, mais il y en a plein qui disent, non, ça me manque trop.
Oui.
J'ai envie de voir d'autres gens, j'ai envie de partager mes émotions dans une salle de théâtre, j'ai envie d'aller faire de la danse, n'importe quoi.
Aller à des concerts.
Donc on a un peu les deux aujourd'hui avec un vrai retour. Moi, ce que je suis en train de constater un peu, c'est que, du coup, ces événements sociaux qui étaient devenus habituel avant le Covid, hein, où on allait un petit peu comme ça parce que ça faisait partie de notre habitude, on repris de la valeur. C'est-à-dire que maintenant on s'aperçoit que c'est vraiment chouette d'aller au cinéma, au théâtre, d'aller dans un restaurant même s'il y a beaucoup de monde.
On apprécie beaucoup plus.
Ouais, on l'apprécie plus. Et donc le Covid a révélé un petit peu ça. Et c'est la même chose dans le monde du travail. C'est-à-dire que avant on avait la réunionnite aiguë, on n'en pouvait plus de ces réunions, on se trouvait tout le temps. Avec le Covid, on a fait de la zoomite aiguë, ça a été épouvantable aussi. Et maintenant, on a quand même envie d'avoir des réunions, mais il faut quand même que ces réunions soient bonnes.
Ouais. Et constructives et
ce qu'on avait avant.
Optimisées, quoi.
Optimisées, intelligentes au sens où on écoute les autres et on sait qu'on va pouvoir être écouté. Donc je crois que il est en train de se passer quelque chose dans notre société avec la relation aux autres et avec, ne l'oublions pas, la relation avec la nature parce que l'écologie nous a bouleversés aussi. tout le monde a commencé à prendre conscience qu'il fallait qu'on fasse plus attention à notre relation à la nature. Au voyage que l'on faisait, aux produits qu'on consommait, etc. À l'endroit où on les achetait, d'où le marché. C'est pas tout à l'heure, je disais que le marché, il est exactement à cheval entre les deux. Il y a des prises de conscience qui se sont faites. Est-ce qu'elles vont durer? À mon avis, oui. C'est pas un simple épiphénomène du Covid, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer de profond. Et moi, je suis très optimiste, en fait, sur ce bouquin, même s'il apparaît pas toujours comme étant optimiste. La première partie est un peu tristounette parce qu'elle montre pourquoi ça s'est un petit peu désaxé. Et la seconde, elle dit, ben non, il y a plein de choses qui vont que ça va se réaxer sur de nouveaux contacts.
On l'a déjà beaucoup abordé, mais peut-être que vous avez d'autres choses à ajouter, mais donc il y a des nouveaux liens sociaux et des nouvelles proximités qui sont en train de se construire. On en a parlé. L'écologie, enfin, on se sent plus proche de la nature, plus proche également de soi. C'est-à-dire que les gens se sentent plus proches d'eux-mêmes, tout simplement, avec des quêtes de bien-être, des quêtes de des quêtes philosophiques, des quêtes psychologiques, etc. Donc c'est des nouvelles proximités aussi, des nouveaux liens sociaux. Honnêtement, les nouveaux liens sociaux, là, je sèche un peu. Je sais pas. Je vous cache pas que j'ai un peu de mal à comprendre dans le sens où moi, je sens une société très fracturée, très communautariste, très binaire, très voilà. Donc j'ai un peu de mal à me projeter sur des nouveaux liens sociaux aujourd'hui.
Alors.
Je me trompe, hein, certainement. Hein.
Non, mais c'est pas simple et c'est pas gagné. Hein. Je vais pas. D'abord, vous avez soulevé la question du lien avec soi-même, qui me semble extrêmement important, parce qu'effectivement, ça aussi, c'est un lien qu'on est en train de retrouver. Je ne sais pas s'il est venu de l'écologie ou s'il est venu tout seul, mais on a besoin de faire plus de sport. Le Covid l'a aussi montré. On a besoin de plus de méditation. Regardez, le succès des apps de méditation, c'est extraordinaire. Okay. Le succès des cours de yoga, il y en a partout maintenant, yoga ou tout ce que vous voudrez d'autre. Même des cours de gymnastique. Enfin, on voit qu'il y a un besoin de se sentir mieux dans son corps. Donc aussi son alimentation. D'ailleurs, il y a tout un écosystème qui est en train de se mettre en place pour plus de proximité dans ce sens. Alors, en face de ça, effectivement, il y a des éléments de fracturation dans notre société. Et bon, Jérôme Fourquet a fait un bouquin qui s'appelait L'archipel français, qui montrait qu'en fait, on était sur des îles qui se séparaient un peu les uns des autres. Alors, ça peut être autour du communautarisme, ça peut être autour de certaines religions, ça peut être autour de certaines idées politiques un peu extrêmes, etc. Oui, il y a incontestablement ça. Je pense que les nouvelles proximités vont nous permettre, si nous y faisons un petit peu attention et si on fait tous un petit peu d'effort, de reconstruire aussi des ponts, des passerelles entre ces archipels. Par exemple, moi je vois bien, je regarde un peu qui va dans les cours de yoga, on a des gens qui viennent de raisons extrêmement différentes. Je regarde, moi je fais du théâtre, ben je vois dans mon cours de théâtre des gens qui sont d'horizons extrêmement différents du mien. Alors malheureusement, comme c'est dans Paris, ils sont tous de Paris, d'accord. Bon. Mais le lieu de travail est un endroit où aussi les dialogues se reforment aujourd'hui. Et le lieu de travail, là, on vient vraiment de milieux extrêmement différents.
Bien sûr.
Le marché, on parlait tout à l'heure, alors sauf c'est vraiment le marché du 16e, hein, quand il est un peu coincé, les gens vont tous être les mêmes, mais c'est pas partout pareil comme ça. Hein. Alors, dès qu'on est dans une ville plus petite, on le voit bien. Les centres-villes sont en train de reconstruire aujourd'hui une certaine vie. On voit qu'il y a des cafés qui rouvrent, le café du commerce peut-être, mais c'est bien sympa le café du commerce. Hein. Les restaurants, on voit quand même un certain nombre de restaurants dans lesquels il y a une vraie mixité sociale. Donc je pense qu'on peut, si on veut, construire des passerelles entre nos diverses facettes de la société. Et non seulement je pense, mais je pense qu'il faut le faire. C'est-à-dire que non seulement je pense que ça arrive, qu'on le voit, moi je le vois autour de moi, même si c'est difficile, hein, parce que bon, par exemple, je donne un bon exemple de difficulté. Quand on a un ami complotiste, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est extrêmement compliqué parce que on sait tous qu'il est très 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 difficile de parler avec un complotiste, quel que soit le complot. J'entre pas dans la théorie du complot dans laquelle il se trouve. Hein. On sait bien que les arguments rationnels, ça marche pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? La tendance naturelle, c'est de dire bon, celui-là, je vais plus le voir. Il me casse les pieds parce qu'à chaque fois. Bon. Et là, en fait, c'est contre cette tendance qu'il faut se battre. Parce que il faut dire par exemple à son ami, je suis pas d'accord avec toi là-dessus, mais n'en parlons pas. Mais je reste ton ami, donc je garde un lien avec toi. Ce qui est très très important, parce qu'on s'aperçoit que quand les gens réalisent qu'ils ont été pris dans une sphère complotiste, dans ce qu'on appelle une chambre d'écho, ben pour en sortir, il faut qu'ils aient des bras tendus.
Des ponts.
Il faut qu'ils aient des contacts. Sinon, ils sont tellement isolés à l'intérieur de leur bulle, c'est pour ça qu'on appelle ça une bulle d'ailleurs. Hein,
c'est comme une secte en fait.
C'est quasiment de la secte. Et donc, pour qu'ils en sortent, il faut qu'ils sachent qu'il y a des gens qui leur ont dit « Je suis pas d'accord avec toi, mais je t'aime. Je suis quand même proche de toi. » Donc ça, c'est extrêmement important. Après, la deuxième chose qu'on peut faire avec ces gens-là, c'est de rechercher les points sur lesquels on peut être d'accord. Parce qu'en dehors de la théorie des complots, il y a plein de choses sur lesquelles on peut être d'accord. On n'est pas forcé d'être en désaccord sur tout et sont rarement complotistes sur tout. Donc, en cherchant des points d'accord, on trouve des façons de rétablir un lien. Je prends cet exemple parce qu'il est extrêmement concret.
Il peut être appliqué à l'échelle de la société.
À l'échelle de la société. Il est très difficile, hein, parce que c'est pas simple de créer un lien social. C'est pas simple de
se... Le football.
Quelqu'un qui vous raconte des fadaises. On le voit bien avec les anti-vax, avec tous les... Il y a des dizaines de théories du complot. Et moi, j'ai pas mal de gens autour de moi qui sont dans l'une ou dans l'autre. J'essaie de garder le contact avec eux. Et je sais que d'autres de mes amis disent « Non, moi, je ne veux plus les voir. » Bon. C'est une vraie difficulté que, individuellement...
Ça peut être des sujets. Je vois, j'ai un exemple. Par exemple, je me souviens d'un voyage. On rentre dans un taxi. J'étais accompagnée. C'est un voyage très lointain. Je crois que c'était en Inde. Je ne sais plus. Premier contact avec le taxi, le foot. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des sujets qui sont fédérateurs. Il y a des sujets de discussion. Quel que soit le milieu social, le lieu, la langue, etc. Si on dit Mbappé, ça ouvre un petit peu la conversation. Hein, mais effectivement, la solution, c'est peut-être essayer aussi que chacun ait envie de retisser des liens. C'est-à-dire, je pense qu'il y a aussi, ce sujet-là. Mais je me suis permise de dire que je trouvais la société française un peu fracturée au sens où je me pose la question sur ces désirs de lien social sur une partie de la population. Mais bon, ça, de toute façon, ça fait partie de l'histoire française et
oui,
ça continuera d'être.
On a toujours fait partie. Il y aura toujours des gens qui n'auront pas envie de faire société, ouais. Comme on dit. Mais c'est pas une raison pour se décourager de se dire qu'il y a toujours eu ça. Je ne sais pas personnellement si vraiment il y a une distance plus grande qui est en train de s'établir aujourd'hui. Je n'ai pas de preuve de ça. Au contraire, moi je vois pas mal de rapprochements se faire dans des détails de la vie quotidienne, dont le marché que je mentionnais tout à l'heure. Et j'ai confiance dans le fait qu'on soit capable de découvrir chez les autres des points communs, deux, des richesses. Et c'est pour ça que je crois d'abord au monde du travail. Moi, je viens d'abord du monde du travail.
Alors justement, est-ce qu'il y a des théories économiques qui vont dans le sens de cet optimisme ? C'est-à-dire, est-ce que le fait de voir réapparaître des proximités, des liens sociaux nouveaux, est-ce que ce phénomène est accompagné par des théories purement économiques ?
Oui, alors ça c'est un point très intéressant, parce qu'effectivement, il y a un grand nombre de théories économiques qui sont en train de se développer, autour du lien social, autour des proximités, pour montrer qu'elles ont pris une importance qu'elles n'avaient pas avant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des théories qui sont assez anciennes, mais qui, pour diverses raisons, étaient soit considérées comme un petit peu fantaisistes, soit science-fictionnesque. Alors, prenons par exemple tout ce qui est l'économie du recyclage, l'économie de la ville du quart d'heure. L'économie de la ville du quart d'heure, c'est de dire que la ville, en fait, peut se réorganiser avec des distances maximum d'un quart d'heure pour faire tout ce qu'on a à faire. Bon, il y a toute une théorie autour de ça qui tient bien la route.
Ouais, intéressant. Je vais creuser parce que j'étais pas
courant. On réorganise des villes entières aujourd'hui en se disant, tiens, et si on réduisait nos grands temps de transport pour être plus proches les uns des autres et finalement gaspiller moins, etc. Et l'économie du recyclage, c'est un peu la même chose. Elle est en train de prendre un essor extraordinaire aujourd'hui, puisque même les grandes marques de luxe sont en train de mettre en place des systèmes pour qu'on leur rapporte les vêtements ou les objets pour qu'ils puissent les recycler ou les revendre.
Ah bon, le luxe fait ça maintenant?
Les marques de luxe, de plus en plus,
qui font fait ça.
Tout à fait.
Je savais pas, justement. Moi, je réclamais, parce que j'attendais que le luxe s'y mette, parce que j'avais vu que le second marché, on va dire, des marques un peu plus abordable, commencé à le faire. Mais justement, je me demandais quand est-ce que le luxe allait se mettre au truc.
Je te donnerai des marques tout à l'heure parce que je n'ai
pas
l'esprit tout de suite.
Ok, pas de problème.
Donc, il y a ça qui est en train de se mettre en place. Il y a toute l'économie autour de ce qu'on appelle le cycle de vie du produit. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on appelle aussi l'économie circulaire. Hein.
Oui, bien sûr.
L'économie circulaire, c'est un peu simple. Comme le cycle de vie du produit, ça va plus loin. Mmh. L'économie circulaire, c'est de se dire comment est-ce que des déchets peuvent devenir la matière première d'une autre partie de l'industrie, etc. Donc, c'est du recyclage à une autre échelle. Mmh. Ça fonctionne extrêmement bien aujourd'hui. Les vraies théories qui sont en train de se construire là-dessus. L'économie du cycle de vie du produit, c'est toute une théorie économique qui essaye de comprendre comment un produit consomme, notamment et produit du CO2 et consomme des matières premières, d'un bout à l'autre de sa chaîne de vie, donc depuis sa conception jusqu'à son recyclage, justement. Et là, c'était les choses sur lesquelles on regardait un petit peu marginalement. Aujourd'hui, on est très sérieux là-dessus. On a une théorie très, très intéressante, et après, je m'arrêterai là-dessus, parce que sinon, on en parle pendant des heures, on a beaucoup des théories. Ce qu'on appelle la théorie du donut, c'est une économiste anglaise qui a inventé cette théorie, qui est une très bonne économiste d'Oxford, donc c'est pas rien, hein, qui montre bien comment l'activité économique se situe entre deux extrêmes. Une extrémité sociale, on ne peut pas, c'est comme un donut, hein, au centre il y a le social, il faut qu'on respecte le social, et à l'extérieur il y a l'environnement, il faut qu'on respecte l'environnement. Et donc toute cette théorie consiste à dire, c'est principalement une théorie des villes, mais pas seulement, comment peut-on re-régler notre gestion du lien social et de la proximité pour qu'on soit dans ce bon équilibre qui respecte le social et qui respecte l'environnement. Et bon, elle conseille pas mal de grandes villes aujourd'hui dans ce
okay,
sujet.
Ok, je regarderai.
Donc on a plein de alors j'en mentionne pas mal dans mon bouquin. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est pas tellement ce qui est beaucoup de théories. Il y a toujours eu beaucoup de théories. C'est qu'elles entrent dans une phase où on les prend au sérieux. Mm-hmm. Et on se dit, tiens, ça peut valoir le coup d'y réfléchir. Mm-hmm. Il y en a une autre que je mentionne pas dans le livre, mais qui est intéressante parce qu'elle est en train vraiment de prendre beaucoup de place. C'est ce qu'on pourrait appeler la théorie de la sociétalisation du revenu. C'est un terme un peu compliqué, mais ça veut simplement dire que on est en train de s'interroger sur le fait que une partie de nos problèmes sociaux sont dus au fait que certains.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Métiers, notamment les métiers de proximité, ne sont pas assez rémunérés. D'accord ? Mm-hmm. On voit bien pour les infirmières, les éboueurs, enfin tout ce qu'on appelait mm-hmm. la première ligne pendant le Covid. Et on s'aperçoit en même temps qu'on est en train de réfléchir au plus de moyens possibles pour augmenter ses revenus en les sociétalisant, c'est-à-dire en amenant un revenu supplémentaire. C'est l'indemnité pour l'inflation, c'est les primes pour l'énergie, c'est les avantages fiscaux pour les employés à domicile, etc., etc. Autrement dit, une partie du revenu de la personne va être payée par l'ensemble de la société. Et ça, alors on peut aller jusqu'à la théorie du revenu universel, hein, qui est une théorie qui était loufoque il y a 10 ou 20 ans, qu'on commence à regarder de plus en plus sérieusement dans pas mal d'endroits. Mais ce qui est intéressant dans toutes ces théories sur le revenu et sa sociétalisation, c'est de se dire, on reconnaît collectivement qu'un certain nombre de jobs sont pas assez payés, alors qu'on en a besoin sur le plan de nos proximités et de nos liens sociaux. Donc comment pouvoir les remettre en place en permettant d'augmenter le revenu de ces personnes-là, sans augmenter trop le coût que ça représente pour ceux qui les utilisent directement. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est en train de se passer.
Ça rejoint la question suivante, en fait, que j'avais. C'était au sujet de ce lien social et de ces proximités nouvelles qui ont un coût. On l'a abordé même en tout début d'interview, mais donc qui paye ? Donc là, c'est forcément un exemple
oui.
Où c'est la société qui prend en charge ces nouvelles proximités, ou en tout cas la valorisation de ces proximités. Mais sur quelle autre entité ça peut se répercuter?
Alors, on n'est qu'au début encore, hein, je pense, cette sociétalisation, même si les exemples sont assez nombreux et pas négligeables en termes de montant. Parce que, par exemple, un employé à domicile, il coûte beaucoup moins cher que ce qu'à son petit emploi, que ce qu'a l'employé en termes de revenus. Quand on parle revenus plus charges sociales inclus. Donc, on a déjà fait pas mal de choses et on va en faire d'autres. Mais on peut pas imaginer que tout va passer par la sociétalisation. Ce serait un petit peu trop simple, hein. Bon. Et donc, se pose la question de, à partir de quand l'individu, vous, moi, sommes prêts à payer pour un contact social. Bon. En fait, on s'aperçoit quand on regarde un petit peu qu'il y a déjà pas mal d'expériences qui se font dans ce domaine.
C'est-à-dire choisir entre un interlocuteur humain et un chatbot, par exemple.
Par exemple.
Je suis prêt à payer 1 euro de plus pour parler avec un conseiller.
Voilà. Alors, d'accord. En fait, vous avez peut-être pas fait attention, mais vous le faites déjà. Quand vous appelez des call centers, on vous dit,
cet appel est facturé
tant. Ça va coûter 35 centimes, 1 euro la minute, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de dire, vous êtes en train de payer le contact humain que vous allez avoir.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, le même message vous dit, mais si vous voulez, vous pouvez passer par notre site internet. Hein? Donc, il lui sera...
Entre guillemets, gratuit.
Il est gratuit. Hein? Bon. Donc là, c'est un début. J'ai vu en Italie des pompes, des stations-service, où il y a deux files. La station-service où on se sert soi-même, avec l'essence à un certain prix.
Et le pompiste.
Et celle où il y a un pompiste, où l'essence est un peu plus chère. C'est affiché en grand, on voit les prix. Avec service, sans service.
D'accord.
On voit la BNP est en train de faire une expérience intéressante. Elle, pour l'instant, c'est plus qu'une expérience, mais on ne sait pas si ça va durer. Elle est en train de dire, je ne peux plus donner un conseiller personnel à chacun de mes clients. Donc, ils vont avoir le choix entre avoir un conseiller soit virtuel, soit quelqu'un dans un centre d'appel, ou bien, mais ils paieront un peu plus cher, un vrai conseiller qui leur sera dédié. Et c'est pas la banque privée, hein, c'est la banque normale qui est en train de faire ça. Je pense que ça va se généraliser. Il y a un certain nombre de gens qui sont prêts, dans certaines circonstances, c'est ce qu'on disait tout au début, c'est pas tout le temps, qui sont prêts à payer. Alors, le cas, par exemple, de la SNCF, vous pouvez prendre votre billet sur Internet sans aucun problème. Mais si vous avez envie vraiment de parler avec quelqu'un parce que vous avez un truc un peu compliqué, des trucs de réduction différents, vous allez payer ce que va vous demander le centre d'appel. Et puis pourquoi pas? Donc il y a quelque chose. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est pas simplement des riches.
Non, c'est à l'échelle de la société.
Voilà, c'est un phénomène social quand on aura envie d'avoir un petit peu de contact social. Alors, j'ai même envie d'aller un petit peu plus loin. Quand on va chez son charcutier ou son boucher ou son boulanger, on paye sa viande, son pain, peut-être un petit peu plus cher qu'en allant au supermarché.
Bien sûr.
Mais on accepte de le payer un peu plus cher.
Bien sûr.
Donc ça veut dire qu'on est prêt. Quand on va au marché, les prix du marché ne sont pas toujours inférieurs à ceux du supermarché. Hein. Mais c'est pas la même chose.
Bon. Bien sûr. Tout ça, en fait, toutes ces problématiques, avec votre expérience, quelles implications ça a pour le management? Alors, deux questions dans la même question, toujours. Faut-il dédigitaliser? Et est-ce que la proximité va devenir finalement une sorte d'avantage compétitif, en fait, pour ceux qui vont être capables de la mettre en place?
Alors, en termes de management, il y a plein d'implications. La première, c'est que le manager de proximité, il a repris sa valeur aujourd'hui, notamment à travers le Covid. Il y a le management qu'on appelait intermédiaire. On était en train de se poser la question depuis pas mal d'années, finalement, à quoi il sert. Bon, là, ça y est, on sait à quoi il sert. C'est grâce à lui qu'il y a la cohésion des équipes et il va continuer dans ce sens-là. Donc là, il y a vraiment un élément de management concret qui va se mettre en place. Après, les deux questions que vous posez sont plutôt des questions presque conceptuelles au niveau du management. Est-ce qu'il faut dédigitaliser? Oui, à mon avis, quand on a trop dédigitalisé, il faut dédigitaliser. Alors, ça veut pas dire qu'il faut supprimer le digital, loin de là. Mais ça veut dire, par exemple, que le chatbot, moi, j'ai envie qu'on me dise si c'est un chatbot ou si c'est pas un chatbot. Quand je suis sur un site internet, qu'on me dise si vous avez envie de parler avec quelqu'un, ce sera un vrai quelqu'un et vous pourrez parler avec. Ce qui se passe d'ailleurs, il y a des, je pense la Maïf par exemple, vous cochez, vous cliquez quelque part, et il vous rappelle. Donc c'est une vraie personne qui vous parle. Donc là, il y a un vrai travail de remise en perspective de l'ultra-digitalisation. Alors c'est vrai qu'on a gagné beaucoup d'argent avec ça, on a fait des grosses économies parce qu'on a augmenté la productivité, bon, un concept dieu des années 90, mais on a perdu en contact humain. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on peut revenir un petit peu au contact humain pour augmenter la satisfaction du client ? Soit la satisfaction, soit tout simplement le fait qu'il ait le produit dont il a besoin. Bon. Donc là, c'est quelque chose qui va, c'est ça que j'appelle la dédigitalisation. Ça veut pas dire qu'il faut surtout pas revenir en arrière. Après, l'avantage compétitif, ben, il découle de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'une entreprise qui saura mettre au bon moment un bon contact avec le client,
incontestablement,
un avantage compétitif, incontestablement. Hein. Je reprends l'exemple de la Maïf. Moi, je vois en tant que compagnie d'assurance, c'est vrai qu'elle répond très vite. On a un contact humain quand on veut. Si on n'en veut pas, on n'en a pas besoin. Donc, ils ont réussi à trouver un bon équilibre. Et je pense que tout le monde va aller dans cette direction-là demain.
Après, les grosses entreprises, parce qu'ils ont les moyens, mais peut-être que les plus petites ou les plus modestes, c'est plus compliqué.
Bah, ça dépend du volume d'affaires, ça dépend des marges qu'elles font, ça dépend des marges qu'elles ont envie d'avoir. donc, ça dépend de beaucoup de choses. Mais si on veut des clients demain et que dans le pérennité, besoin du client, il y a de l'humain, il va falloir lui en donner. Sinon, c'est de la concurrence qui apprend. C'est ça que je veux dire quand je dis avantage compétitif.
Bien sûr, bien sûr.
On ne pourra pas exister sans avoir ce genre de choses. Mm-mm. Quand il y a concurrence, il y aura aussi concurrence par le contact humain, je crois.
Donc, le rôle de l'entreprise dans la fabrication des ponts qu'on a évoqué tout à l'heure... il devient fondamental du coup. Enfin, on l'a même carrément abordé en se disant que l'entreprise était aussi un vecteur de lien social au sens où on se retrouve avec des gens qui n'ont rien à voir avec nous ou qui viennent pas du même environnement. Mais après, là, la question c'est plus de savoir qu'est-ce que l'entreprise doit faire en plus que d'être entreprise en fait. Quelle est la démarche qu'elle doit avoir pour créer des ponts ? Parce que être une entreprise uniquement et attendre que ça se passe, c'est peut-être pas forcément ce qu'on attend d'elle.
Ben, l'entreprise, surtout depuis la loi Pacte, elle a une vraie responsabilité sociale et environnementale.
C'est ça.
Donc, il faut quand même qu'elle songe, et elle le fait. Hein. Toutes les entreprises que je regarde aujourd'hui, elles le font. Elles s'interrogent vraiment sur la façon d'avoir une vraie responsabilité sociale et environnementale. C'était du papier glacé il y a encore 10 ans, c'est de moins en moins aujourd'hui.
Comme à l'époque, la loi qui consistait à faire entrer plus de femmes dans des conseils d'administration.
Tout à fait. Dans un premier
temps. Il y a eu
un
virage,
Aujourd'hui, on y est. D'aucuns diront, on n'est pas
Zimmermann,
encore
assez loin. Évidemment. C'était la loi Zimmermann à laquelle je pensais.
Oui. Ouais. C'est pas encore réglé, mais on a fait des progrès. Et on va continuer à faire des progrès. Et l'entreprise est de plus en plus sensible à son impact social et environnemental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'intérieur de son propre management, elle doit être capable, et elle le faisait déjà, elle va faire de mieux en mieux, d'établir des ponts, des passerelles entre les individus qui viennent d'horizons différents. Ouais. Y compris quand ils sont en télétravail. Mais... c'est là où ça devient intéressant.
Excusez-moi, je vous coupe, mais moi, il y a quelque chose qui me perturbe et j'en parle quasiment, pas quotidiennement, mais presque, en fait. Après, il y a un point générationnel aussi. C'est-à-dire que quand on est un manager, je sais pas, moi, imaginons, j'ai moins de 40 ans, bon, je suis encore dans la trentaine, je vais avoir à manager une personne qui a 20 ans ou 21 ans, 22 ans. Elle a pas du tout la même vision des choses que moi, heureusement, mais parfois, je ne les comprends pas. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans des cas de figure, pas moi, hein, mais en tout cas des gens qui m'en ont parlé, où ces personnes-là, en entretien, veulent changer le monde, veulent avoir un impact positif, veulent avoir une entreprise, veulent collaborer dans une entreprise responsable, veulent être partie d'un tout positif, etc. Donc, on a le sentiment que vraiment, ils vont nous apprendre des choses. Et il s'avère que quand ils sont dans des open space avec 25 personnes en plein feu, tout le monde est charrette, comme on dit, tout le monde est débordé, cette petite personne va être dans son coin, en train de travailler sur un petit projet personnel ou en train de faire un truc, sans même demander de si elle peut apporter son aide à la personne qui est à côté. Donc si vous, je pense qu'il y a un sujet à la fois un peu métaphysique comme ça, enfin pas métaphysique, mais j'arrive pas à faire, comment dire, le lien, en l'occurrence, ou à transcrire toutes ces bonnes volontés dans la réalité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est les ponts, je suis d'accord, et c'est très important de les créer entre pour créer de la diversité, mais il y a un pont générationnel, moi, qui me perturbe beaucoup, où j'avais déjà ce sentiment-là à l'époque, où quand on est plutôt d'une formation qui n'est pas ingénieur, on a du mal à se parler avec des ingénieurs parce qu'on parle pas la même langue et qu'ils ne comprennent pas forcément sur plein de sujets. Et moi, je ne les comprends pas sur d'autres. Mais là, je trouve qu'il y a un vrai, il y a une fracture en fait qui est aussi en train de s'opérer. Alors, je veux pas voir la société trop fracturée et plus qu'elle ne l'est, mais je trouve qu'il y a un vrai sujet de génération. Donc peut-être que toutes les générations du monde se sont posées ces questions. Peut-être que des personnes qui ont aujourd'hui 70 ans me voyaient moi-même comme une personne qu'ils n'arrivaient pas à capter. Mais je me souviens, en tout cas moi, qui j'avais des sujets, des préoccupations quand je suis arrivée dans le monde de l'entreprise. J'avais un sujet de respect de l'autorité, j'avais un sujet de bien faire mon travail, j'avais un sujet de ne pas trop remettre en question en permanence tout. Et je ne me sentais surtout pas dans l'envie ou dans la possibilité de donner des leçons. Donc il y a un côté... Attention, je casse pas du tout du sucre sur la nouvelle génération parce qu'il y a des pépites et il y a des gens exceptionnels et je déteste les généralités, hein, dans un sens comme dans un autre. Bref, ma question est très longue, mais en gros, c'est que je me demande quels conseils on peut apporter à cette génération de managers qui a moins de 40 ans, on va dire, une petite quarantaine, quoi, et qui a à gérer des gens de 20 ans. Voilà, je trouve que c'est un vrai sujet.
Ah, m'en parlez pas, ma brave dame. Les jeunes ne sont plus ce qu'ils étaient. Hein.
Mais bon. Non, mais c'est pas. Je sais que je passe pour une vieille rombière quand je fais ça, mais c'est. Et encore une fois, je comprends les jeunes de 20 ans, c'est pas le sujet, hein, mais je. Voilà.
J'avais un peu long, une citation, ça. Je sais plus où je l'ai mise dans ma tête, de Platon qui disait la même chose sur les jeunes. Donc ça fait longtemps effectivement qu'on s'interroge sur les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils étaient de mon temps. C'est une bonne question, hein, c'est pas la seule chose que moi je vois vraiment différente à travers les siècles, quand j'ai regardé un petit peu l'histoire de ça, c'est que les générations sont plus courtes. C'est-à-dire qu'avant, on ne comprenait pas les gens qui avaient 20 ans de moins que nous.
Oui.
Et maintenant, il y a des fois où on ne comprend pas les gens qui ont 5 ans de moins.
Exactement.
Que nous.
Exactement.
Donc là, il s'est passé quelque chose.
C'est ça.
Principalement à cause des technologies, d'ailleurs. Hein, parce que les technologies, on utilise peut-être WhatsApp, mais il y a 10 ans, on n'utilisait pas trop WhatsApp, par exemple. Il n'y a que ça, mais ça change énormément. Les fonctionnalités de l'iPhone changent toutes les 5 ans, donc on a des choses qui sont plus riches. Même les capacités qu'on peut, des choses qu'on peut faire par Internet, notamment par ce digital, ont beaucoup changé. Donc, on a des vraies évolutions des technologies. Et puis, on a une évolution sociétale aussi. On a des attentes qui sont différentes. On a des générations jeunes, effectivement, par exemple, qui ont des grosses attentes sur refaire le monde de demain. C'est ce que vous disiez, hein, sur l'écologie, etc. On a la génération Greta, qui est en train d'arriver aussi. Donc, oui. Alors, après, moi, ce que j'ai envie d'entendre là-dedans, c'est chouette, il y a plein de ponts et de passerelles à faire. Donc, plutôt que de s'inquiéter
non,
de
ça, pas, mais
essayons d'en tirer un bénéfice. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce que ces jeunes-là, parce que là, on parle des jeunes, ont envie d'amener à la société. Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose sur notre propre comportement? Est-ce que dans une entreprise, parce que là, en fait, on est au niveau du fonctionnement de l'entreprise aussi, hein.
Je suis d'accord.
Qu'est-ce que je peux écouter?
Il faut se remettre en question.
Au niveau de mes process, au niveau de mes produits, au niveau de mes enjeux, au niveau de ma raison d'être. La loi Pacte, elle demande aux entreprises d'avoir une raison d'être. C'est extrêmement important parce que c'était un des vrais problèmes, pas seulement des jeunes d'ailleurs, hein, on a toujours
c'est
eu
une entreprise à mission.
Voilà, l'entreprise à mission. C'est quoi le sens de mon travail? C'est les gens se posent ça depuis des générations complètes. Hein. Bon, il y a un moment où on effaçait ça parce qu'on disait bon, de toute façon, faut bien travailler, faut que je fasse mon boulot, etc. Mais non, aujourd'hui, c'est fini ça. Tout le monde veut une raison d'être. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Qu'on ait envie d'avoir un sens dans notre travail. Bon, après, la question, elle est vraiment.
Je sais pas. Il y a quand même. Enfin, je pense que c'est quand même. Je sais pas.
Tu t'interroges pas sur le sens de ton travail?
Si, moi, oui. Mais parce que je suis privilégiée. Mais je pense que il y a quand même une majorité de gens qui sont obligés de travailler et de faire le travail qu'ils ont devant eux. C'est-à-dire que je m'estime privilégiée parce que je crois qu'il y a quand même une catégorie de gens. Qui sont obligés de faire le travail. Voilà. Tout à l'heure, on parlait des éboueurs.
Ouais.
Eux, ils ont un vrai sens, pour le coup. Mais je pense pas qu'ils le vivent comme ça.
Bah, ils le vivent pas forcément toujours comme ça, mais il y en a qui le vivent comme ça. Moi, j'ai une nièce infirmière qui me parle de son métier avec des larmes dans les yeux.
Non, mais je suis entièrement d'accord. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens. Je sais pas. Je prends des gens qui n'ont pas du tout d'instruction, qui sont. Je suis pas certaine que tout le monde ait ce besoin-là. Voilà. Peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que je me trompe.
Pour moi, c'est un besoin fondamental et je vois peu de gens qui, même dans les livreurs Amazon, quand ça m'arrive d'avoir un peu de temps pour parler avec eux, qui ne cherchent pas.
Oui.
Alors, c'est pas forcément conscient, ils vont pas l'exprimer dans un bouquin de philo, hein. Mais le fait, la plupart des, surtout dans les métiers de proximité, ils ont un vrai sens. Ils ont un vrai sens. D'ailleurs, dans son bouquin qu'il avait appelé sur les bullshit jobs il y a quelques années, j'oublie son nom, il parlait pas de ces métiers-là. Il parlait des métiers devant un ordinateur où on s'ennuyait à remplir des données. Hein, donc des métiers de gestionnaire du savoir, quelque part, pas de gestionnaire de propriété, de proximité, pardon. Et moi, je pense fondamentalement que dans l'homme, il y a un besoin de se réaliser.
Oui, et puis de toute façon, ceux qui n'auront plus de sens dans leur travail seront remplacés par des robots, c'est ça?
Alors, il y a une partie qui peut être remplacée par des robots, effectivement. Je sais pas si c'est vraiment la chose à souhaiter, parce que, bon. Et non, il y a, et je pense que la question va plus loin, en fait. Je l'aime bien, cette question. Parce que, si quelqu'un fait juste un boulot parce qu'il a besoin de faire ce boulot et qu'il a besoin de gagner un petit peu d'argent pour terminer son mois, est-ce que c'est une raison pour ne pas essayer de lui donner du sens dans son travail et qu'il s'y sente mieux? D'abord parce qu'il le fera mieux, évidemment. Il se sentira mieux, il aura une qualité de vie au travail qui sera meilleure. Et nous, en lui donnant peut-être un peu de sens, on lui aura aussi donné de la joie de vivre quelque part. On lui aura donné quelque chose.
Ça me fait penser, oui, au livreur, parce que j'avoue que j'ai un sujet sur Deliveroo.
Oui.
Je trouve que cette entreprise est un cas d'école incroyable. Entre une personne qui se paye un repas avec quelqu'un qui vient lui livrer devant sa porte, et qui est cette personne, en fait, moi, j'avoue, hein, j'ai utilisé Deliveroo et je l'utilise encore. Mais quand j'ai vu apparaître le donner un pourboire au livreur, ça n'existait pas au début de Deliveroo. Il n'y avait pas. Il y a eu cette fonctionnalité qui est apparue au bout d'un certain temps. Ensuite, je vois ces gens qui manquent de se faire écraser 50 fois ou de se faire renverser en mobylette, en scooter ou en vélo, au truc. Parce que voilà, ils ont un objectif, il faut absolument que le repas arrive à telle heure, à tel endroit, etc. Donc quand on voit cette pressurisation d'une certaine catégorie de la population pour avoir un gars qui finalement a son sandwich bien frais qui arrive devant sa porte, bon, voilà, je me demande si lui, ce livreur Deliveroo, il arrive à trouver un sens. C'est compliqué, voilà. Je dis pas que
je veux pas faire.
Non, mais on coupera si tu veux couper, hein. Mais c'est vrai que moi, tout ça, ça me pose des questions.
Bien sûr. Non, mais ça pose des vraies questions.
On a vu des papiers passer.
Des vraies questions de société. C'est-à-dire, là, on recherche quand même quelqu'un qui veut nous apporter quelque chose. Une question de proximité, effectivement. Il y a un lien social, il vient. Est-ce que je suis prêt à payer ce lien social? Là, il y a le pourboire, peut-être. Il y a beaucoup plus profondément comment est-ce qu'il est payé. Et comment est-ce que moi, je paye, en achetant mon sandwich, le transport que lui va faire pour moi. Donc là, il y a une vraie question de rémunération, c'est celle dont on parlait tout à l'heure. C'est une énorme question sociale. Qui est prêt à payer pour ça? Qui ne voudra pas payer pour cette livraison de sandwich, ou qui ne pourra pas payer? Donc, on a des vraies questions sociétales qui se posent. Mais ça ne ferait pas que ça nous distrait de la question du sens dans son travail. On peut lui faire perdre son sens, hein, effectivement, si on le pressurise tellement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a tout un tas de législations qui essaient de contrôler le travail par les plateformes, toutes les plateformes, y compris l'Europe s'y met là. Donc il faut pas que la pressurisation dévalorise la qualité de son travail et augmente son insécurité, ça c'est clair. Donc on a besoin de le revaloriser, ça c'est très très clair. Il faut vraiment qu'on aille dans cette direction-là. Ce ne sont pas des esclaves qu'on est en train d'exploiter. Bon, mais ce sont des êtres humains qui ont aussi besoin, comme les autres, de gagner leur vie, d'avoir un certain sens dans leur vie, et qu'on les respecte. Eh bien là, ces questions-là, c'est des vraies questions sociétales. Comment est-ce qu'on peut mieux les respecter? Comment est-ce qu'on peut mieux les payer? Si on les paye pas assez et que du coup c'est pas rentable de faire l'opération, ben, y a aucune raison que la société continue, cette société continue à les utiliser. Bon, donc y a des vraies questions qui vont se poser. Donc je suis pas un idéaliste sur ce plan-là, mais je crois qu'on a beaucoup à faire pour permettre effectivement à des individus, tous les individus, d'avoir une certaine fierté dans leur travail.
On va bientôt arriver à la fin de cette interview, Dominique. Est-ce qu'il y a une grande question à laquelle... une grande question sans réponse, aujourd'hui, que vous vous posez?
On en a déjà parlé la dernière fois, et pour moi, elle est centrale à tout ce qu'on vient de discuter, et surtout le dernier point de discussion ici, c'est comment trouver notre rôle et notre responsabilité individuelle dans ce qui paraît être un enjeu collectif. Oui, le lien social, c'est d'abord un concept. Oui, les proximités, c'est d'abord un concept. Mais comment est-ce qu'on traduit ce concept dans notre vie quotidienne, dans nos actions quotidiennes, que ce soit la proximité sociale, la proximité avec la nature, etc. Et je crois qu'on a, en fait, beaucoup plus de liberté de décision et d'action que l'on ne pense, et surtout que l'on ne prend. C'est-à-dire, ben, tu disais tout à l'heure, donner un pourboire chez Deliveroo, je le fais de façon systématique. Ben, ça y est, t'as fait un acte là qui montre que tu es en train d'entrer dans une certaine logique. Bon, aller au marché plutôt qu'aller au supermarché pour acheter des produits avec moins d'emballage plastique, c'est une vraie démarche individuelle. D'accord. Et moi, la vraie question que je me pose aujourd'hui, c'est jusqu'où chacun d'entre nous, quel que soit son niveau social, est-il prêt à aller pour permettre ce changement social et environnemental? Parce qu'en fait, les deux sont extrêmement liés ici. Et je regrette, en fait, de voir que beaucoup d'entre nous ont le message à la bouche, mais ne mettent pas leurs actes là où est leur message. Hein. Je crois que bien les sûr. Américains disent « put your money where your mouth is », hein, quelque chose comme ça. Et là, je m'interroge sur comment faire pour faire passer le message qu'on a vraiment une responsabilité individuelle. Et là, j'ai un espoir qui est ce que je vois chez les très jeunes, donc les gens de moins de 20 ans, hein, bon, qui nous disent, mais attention, il faut mieux trier les produits que ça, il faut moins laisser ouvert le robinet, il faut quand même, on va prendre le train plutôt que la voiture ou l'avion pour aller à tel endroit. Il y a un mouvement qui est en train de se passer dans cette jeunesse-là, c'est même presque les moins de 15 ans, c'est la génération Greta, vraiment. Et je trouve ça extraordinaire, parce qu'ils sont en train de nous entraîner vers quelque chose qui est pourtant évident, c'est que nous sommes responsables de leur monde. On est responsable du monde dans lequel ils vont vivre demain, et ils nous le disent. Donc, prenons cette responsabilité, essayons de la faire partager par le plus grand nombre, pas simplement les privilégiés que nous sommes. A raison Estelle, aujourd'hui on est privilégiés dans ce qu'on est en train de discuter ici. Mais faisons-la partager plus loin. Les jeunes sont prêts, beaucoup de jeunes sont prêts à nous aider, soyons prêts à les aider et à faire changer
le monde. Je pense que les gens commencent à faire le lien, je veux dire, même les peuples privilégiés commencent à faire le lien avec des gens qui travaillent dans des entreprises qui sont pas forcément très correctes sur leurs process, etc. Donc je pense qu'il va, au bout d'un moment, la boucle se boucle. Mais voilà. Deux autres questions, ou plutôt trois. Un coup de cœur, un coup de gueule, et votre vision de la France. Mais on va faire très vite sur la vision de la France, c'est pas une question politique, encore une fois. Mais c'est plus un ressenti général. Voilà, c'est certainement pas politique, attention. Hein, c'est plus une question sur la France, tout simplement, parce que j'aime mon pays, voilà.
Alors, un coup de cœur,
un coup de gueule et une vision de la France. Ouais.
Une vision pour la France.
En sachant que le coup de cœur et le coup de gueule, d'abord, c'est pas obligé d'en avoir. Ça peut être culturel, ça peut être une série, un livre, une pièce de théâtre, un film, peu importe. Voilà. Et le coup de gueule, il y a des gens qui n'en ont pas. Moi, j'en ai tout le temps, mais c'est pas forcé.
Un coup de cœur, je vais prendre un film en fait qui s'appelle Drive My Car, C'est un film japonais qui est sorti il y a quelques mois, qui a, je crois, été en partie primé à Cannes, qui fait le lien, justement, entre des personnes de statut social complètement différent, entre des cultures complètement différentes, et entre le théâtre et la vie. C'est un film très délicat, très 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 beau film, c'est un des plus beaux films que j'ai vu depuis pas mal d'années. Vraiment, à voir.
Okay.
C'est vraiment un film de lien.
D'accord.
En plus, il y a un lien entre générations à l'intérieur, donc tout ce qu'on a discuté aujourd'hui se reflète dans ce film. J'ai envie de prendre une série comme coup de gueule, alors qu'en même temps, c'est un coup de gueule un peu particulier. Bon, c'est la série coréenne.
Squid Game.
Squid Game, qui est une série épouvantable au niveau de la violence qui peut s'y passer, mais qui est justement par la violence qui s'y passe, elle nous ramène à des vraies interrogations sur quel genre d'animal sociaux sommes-nous. À partir de quand sommes-nous, chacun d'entre nous, risquons-nous, chacun d'entre nous, de devenir odieux ?
Mais ça, je pense que c'est par votre prisme. Parce que, honnêtement, je crois que ceux qui la regardent en majorité ne se posent même pas ces questions.
Ah, je crois que si.
Ah bon ?
Je crois que si, oui. Et ça vaut vraiment le coup de la regarder au moins 3 ou 4 épisodes. Franchement,
moi,
je déteste les séries en règle générale. Bon.
Moi aussi, j'aime pas ça. Et là, je réchine vraiment à la voir.
J'ai regardé le premier.
J'ai pas du tout envie.
Et puis après, je me suis dit, mais non, attends, il y a vraiment une question ici qui est en train de se poser sur l'individu, sa responsabilité, son poids par rapport aux autres, la façon dont il regarde les autres, la perversion possible d'un individu par un système. Et en fait,
regardez, alors.
C'est un coup de gueule, mais en même temps, je me dis, c'est une vraie interrogation sur nous-mêmes. Hein. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller ? Mon espoir, c'est de dire pas trop loin. En même temps, objectivement, quand on regarde en philosophie, j'avais déjà mentionné la dernière fois les travaux d'Anna Arendt, hein, objectivement, dire, moi, dans telle circonstance, j'aurais pas fait ça, j'aurais été un héros. C'est pas vrai. La plupart d'entre nous ne sommes pas des héros, et dans des circonstances dramatiques, on serait peut-être des lâches. Admettons-le. Bon, c'est pas facile à admettre. Hein, bon. Et ben, ce que dit un peu cette série, c'est aussi ça.
C'est la théorie du pauvre type.
C'est la théorie du pauvre type, tout à fait. Tout à fait. Hein, et bien, on s'aperçoit que dans cette série, justement, la théorie du pauvre type, elle est souvent là. Et il y a des gens que l'on croyait être il y a des inversions dans cette série, c'est intéressant. Des gens qu'on croyait être plutôt bien sont des monstres, se transforment en monstres. Mais c'est absolument...
J'ai regardé.
Et donc, ça, c'est un peu mon coup de gueule, mais qui est en même temps un coup de gueule qui dit attention à nous-mêmes. Attention à nous-mêmes. On sait pas bien, on pense qu'on est des gens bien. On pense tous qu'on est quelqu'un de bien. Non, pas forcément. Hein. Et puis, une vision pour la France... En fait, j'aime bien la question, mais j'ai beaucoup de mal à y répondre. Parce que, j'aime beaucoup mon pays aussi. Je pense qu'il nous offre une diversité de situations extraordinaires. Et moi, je le regarde un peu comme un laboratoire, comme un endroit où on peut, si on veut, arriver à créer un nouveau mode de relations sociales, un nouveau mode de vivre ensemble. On n'a pas bien réussi jusqu'à présent. C'est pas parce qu'on n'a pas bien réussi qu'on peut pas le faire. Et je crois qu'on a un vrai enjeu et qu'on a les moyens. Il faut beaucoup de courage. Parce qu'effectivement, vous dites que c'est pas une question politique, mais c'est une question politique, hein, par définition. Il va falloir mettre les moyens et accepter des changements, assez importants. Collectivement et individuellement, et l'écologie va nous aider d'ailleurs parce qu'on va être forcé à le faire. Je pense que moi j'aime les labos. Les labos, c'est des endroits où il y a plein de choses qui se confrontent les unes les autres. Et la France est un formidable laboratoire aujourd'hui, à tout point de vue, principalement au niveau politique, parce que au niveau économique, bien sûr, hein, mais même au niveau politique. Quand je dis au niveau politique, que je suis pas en train de me positionner extrême droite, extrême gauche, c'est pas ça que je vois. Je prendrai un autre exemple en politique, qui est par exemple celui de notre relation à l'Algérie, qui est une relation extraordinairement complexe sur le plan historique, qui est une relation à l'intérieur de notre pays, avec des gens qui sont ici, qui habitent ici, qui sont nés français, mais peut-être d'origine algérienne, il y a des Français qui étaient en Algérie, qui étaient des pieds noirs, qui sont encore là, qui sont des enfants de pieds noirs, etc. On a C'est ça que j'appelle la politique. C'est pas de savoir si je vais voter à droite ou à gauche, c'est comment est-ce qu'on peut, avec ce laboratoire de gens extrêmement différents les uns des autres, réussir à vivre mieux ensemble demain. Et à mon avis, c'est faisable.
Avec même. Plus que vivre ensemble.
Vivre ensemble, ben oui, vivre ensemble, ça veut dire vivre ensemble. Vivre avec, c'est être un petit peu l'un à côté de l'autre. Enfin bon, on peut voir les... Il y a des vraies questions. Pour moi, c'est ça, et je pense qu'on a une chance en France, une chance incroyable, d'avoir été justement un pays d'extraordinaire mélange. On est fait que de mélange, il n'y a pas un Français pur, ça n'existe pas. Donc ce mélange, faisons-en quelque chose. Collectivement. Donc ça, oui, j'ai une vision assez positive ici, mais là, je suis peut-être un petit peu idéaliste, utopiste. Je reconnais.
Dominique, merci beaucoup. J'étais ravie d'échanger avec vous. On rappelle votre livre, À la recherche du lien social perdu, vivre et travailler ensemble au XXIe siècle, aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup, Dominique.
Merci beaucoup pour cette invitation, Estelle. C'était un grand plaisir.
Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le partager, de mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore d'en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Et bien sûr, abonnez-vous au compte Instagram du podcast pour suivre son actualité et m'envoyer vos commentaires et suggestions d'invités. Je réponds à tous les messages. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.